proposer peut-être de vous présenter rapidement en une minute. Je crois que peut-être dire quelques mots sur.
Bonjour à tous, Geoffroy Guigou, je suis cofondateur de United Credit et j'ai la chance d'être un des vice-présidents de France FinTech. En deux, trois mots, United a l'ambition de révolutionner le secteur du crédit en Europe et il y a pas mal de boulot, donc ça va prendre un certain temps. On a créé la société il y a 10 ans, elle s'est lancée commercialement il y a 8 ans. C'est un domaine où le temps est long, le domaine du financement. En quelques chiffres sur là où on en est aujourd'hui, United Credit, c'est 340 collaborateurs, dont 100 à la tech, qui couvrent 5 pays en Europe, France, Italie, Espagne, Portugal et dans quelques jours Allemagne, et qui offrent une expérience de crédit simplifiée, révolutionnaire dans certaines de ses dimensions, mais qui permet aussi à des investisseurs prêteurs, qui sont là plutôt des institutionnels, qui peuvent être des particuliers, de s'exposer au risque de crédit en déployant des liquidités sur leur plateforme. C'est ce qu'on appelle chez nous les prêteurs. On a réalisé un peu moins de 600 millions d'euros de production de crédit en 2019 pour un produit net bancaire, chiffre d'affaires, c'est assez rare de communiquer là-dessus, donc je le précise, qui est un peu inférieur à 45 millions d'euros. On a atteint la rentabilité en France, un résultat net positif en 2019. Ce n'est pas le cas encore pour les autres pays où on est. Voilà, donc on est toujours sur une dynamique de croissance. Les grands projets de la société aujourd'hui et pour 2020, pour les partager avec vous, l'ouverture de l'activité en Allemagne dans quelques jours, le développement de notre activité B2B2C, donc qui s'adresse à des banques, des assureurs, mais aussi des opérateurs téléphoniques, on en reparlera tout à l'heure, et le développement d'une nouvelle offre de services, de conseils qui utilisent nos algorithmes de crédit pour fournir des conseils personnalisés. Je pense qu'on en reparlera dans quelques minutes.
Bonjour. On veut me faire taire. Déjà.
Bonjour, je suis Cyril Chiche, le cofondateur de IKEA. Qui a déjà fait un IKEA? On n'est pas dans une belle salle. Hein. Non, d'habitude, c'est plus que ça. Là, je suis un peu déçu. Et en plus, je m'apprête à vous dire qu'un Lydia, c'est plus que c'était. Donc, bon. Enfin, donc Lydia, c'est une application de paiement mobile qui a été lancée en 2013, qui compte aujourd'hui 3 millions d'utilisateurs. Elle grossit de 5 000 nouveaux utilisateurs par jour. On a eu une grosse actualité récente, l'arrivée à notre capitale de Tencent, le géant chinois de plein de choses, mais notamment des paiements et des services financiers. Et dans l'ambition de Lydia, au départ, c'était vraiment pouvoir tout payer dans son quotidien avec son mobile. On a un peu, d'un point de vue produit, terminé le sujet, puisqu'aujourd'hui, on peut vraiment tout payer avec Lydia depuis son mobile partout dans le monde. On émet des cartes physiques, virtuelles, plein de choses, des comptes joints, des comptes partagés. Et donc, du coup, on ne voulait pas s'arrêter là. Donc, la nouvelle ambition de Lydia, c'est d'être, et c'est quelque chose qu'on a commencé à travailler en 2018 et qui a commencé à se voir en fin d'année 2019, c'est d'être vraiment la super app des services financiers européennes. Et donc, ça veut dire adjoindre à nos propres produits la distribution de produits tiers. Donc, on a commencé avec des prêts instantanés, des assurances. On fait aujourd'hui des cartes cadeaux. On peut acheter et aussi envoyer des produits qui vous permettent d'avoir des compensations si votre vol est en retard, enfin, plein de choses. Et ça va bien sûr se développer avec une vision un peu place de marché, on aura nos produits, des produits tiers, mais tout ça alimenté par une expérience homogène, unique, temps réel, et évidemment simplifiée et personnalisée grâce aux data.
Voilà. Bonjour à tous et à tous, merci pour ce moment d'échange. Donc moi je m'appelle François Nicolas Arti. Je retiens votre belle expression, Bruno, là, de sociologue du futur. Voilà, que vous avez utilisé. Or, ça va être un peu prétentieux, mais enfin, l'idée de considérer qu'on est confronté à un phénomène majeur, à savoir des sociétés de plus en plus clivées, de plus en plus divisées. Et donc, la question, que ce soit en Europe, aux États-Unis ou ailleurs, et donc la question qui se pose, c'est que se passe-t-il, sur tous les sujets qu'on évoque ici, que se passe-t-il quand on projette, quand on lance une innovation technologique, un business, une entreprise dans des sociétés qui sont non seulement divisées, mais souvent en diffraction. Alors, j'avais quelques images, je ne sais pas où elles sont. Ben voilà, elles sont là, très bien. Voilà, les images sont assez formidables. Pour vous donner quelques éléments d'illustration de ce propos et rebondir sur cette question qui nous anime sur qu'est-ce que c'est que ce nouveau consommateur, bon, il y a toujours une dynamique de la consommation qui est très forte, contrairement à ce qu'on dit parfois avec une progression quasiment ininterrompue depuis les années 50-60. Le premier élément, c'est ça. Alors, le premier élément était sur la page d'avant. Alors, je ne sais pas si on peut revenir sur la page d'avant, mais enfin voilà. Premier élément, c'est l'idée. Je vais prendre le côté un peu négatif ou des difficultés qui habitent ce consommateur et les tendances que l'on voit. Le premier, c'est ce qu'on pourrait appeler malaise dans la consommation. À travers un élément qui est, je vais très vite pour ne pas vous lasser, ne pas prendre trop de temps, mais un élément qui est très important, qui est ce sentiment de devenir remplaçable. C'est-à-dire, je suis, moi en tant que consommateur, je deviens un consommateur parmi d'autres. Et de plus en plus. Et je cherche désespérément, comme disait Alain Clos, à me diversifier. Je diversifie mon identité, je diversifie qui je suis, parce que fondamentalement, j'ai peur de devenir moi-même, d'une certaine manière, un objet de consommation. Donc, comment est-ce que je peux dépasser cette chose-là? Le buisson s'envole. La deuxième, il y a juste 3-4 pages. La deuxième slide, c'est cette idée-là qui est très forte, voilà, sur les interdits et les libertés individuelles. Les 6 points que vous avez évoqués sur le consommateur de demain sont passionnants parce que ça décrit de manière assez cohérente des lignes de force émergentes. Mais on a aussi toute une autre partie de la société qui, aujourd'hui, et probablement encore dans les années qui viennent, ne se reconnaîtrait pas ou ne se reconnaîtra pas dans ces mutations que vous décrivez parce que les modes de vie sont différents, parce qu'on reçoit des choses différentes. Et donc, c'est un sondage qu'on a réalisé il y a quelques temps, l'idée selon laquelle on a aussi des discours normatifs, des injonctions sur la manière dont il faut vivre, dont il faut consommer plein de choses, des choses bio, etc., plein de choses, et donc ça crée des clivages. Les gilets jaunes ont été une illustration de ça. Donc mon consommateur du futur, ça n'est pas un consommateur. D'une part, chacun peut être multiple, et d'autre part, dans la société, on peut être confronté à des oppositions virulentes, parce que ce que tu consommes, toi, ne correspond pas à ce que je consomme, moi, et ça construit en partie nos identités. Et le troisième élément, c'est celui-ci. Alors, on a toujours un temps d'avance. Voilà, c'est ce que j'appelle ici la guerre des modes de vie, qui me semble très caractéristique aussi du consommateur du futur. C'est-à-dire, si vous dites aux gens, pour quelle raison est-ce que vous refusez d'acheter tel ou tel produit, ça ne correspond pas au mode de vie que vous voulez avoir. Donc on n'est pas uniquement sur c'est bien pour la planète, c'est pas bien, etc. Ce qu'on essaie de faire dans le cas du GCF qui travaille sur ces enjeux du futur, c'est dire aussi qu'est-ce que ça veut dire pour toi dans ta vie. Et des éléments de consommation sont des vecteurs de compétition dans la société. Gilets jaunes, c'est exactement ça. Tu me parles d'une taxe carbone, c'est bien gentil, ta taxe carbone, c'est pas ma vie. Tu me parles d'un véhicule autonome pour le futur, c'est bien gentil, c'est pas ma vie, donc j'entre en concurrence. Donc pour conclure ces éléments d'illustration, sur la page suivante, vous devez avoir un dessin qui définit au fond des rivalités en termes d'usage, de consommation, de pratique de consommation, avec je crois deux choses très fortes, toute une partie de gens qui sont dissidents. Ces dissidents apparaissent dans le bas de la page, parce qu'il y a plein de choses dont on n'a pas envie. Il y a des gens qui n'aiment pas l'écologie, il y a des gens qui n'aiment pas la technologie, il y a des gens qui achètent des choses qui ne sont pas déclarées, il y a des gens qui sont attachés à leur identité historique, il y a des gens qui sont attachés à la spiritualité, donc tout ça se recompose très vite. Et en regard de ça, il y a quelque chose qui me paraît très important, c'est-à-dire une tentative de dépasser le statut de consommateur actuel. Alors je crois qu'Alain en a dit un mot tout à l'heure en disant on ne considère plus uniquement le consommateur comme un consommateur, mais on définit aussi une expérience. Je crois même, si je puis me permettre, qu'on va parfois au-delà de ça, c'est-à-dire qu'on essaie d'appréhender, de créer du sens. Donc quand on parle du sens, on est au-delà de l'acte de consommation. Et enfin, de tenir compte d'une personne humaine dans sa singularité. Voilà, vous parlez tout à l'heure d'individualisation, comment faire de l'industrialisation, mais aussi de l'individualisation. Voilà, comment mon voisin, je peux lui adresser quelque chose, un produit, un service, qui ne lui sera destiné qu'à lui dans sa singularité et qui me permet de le reconnaître comme personne. Donc je vais bien au-delà du statut de consommateur. Voilà, tout ça pour dire, pour terminer, qu'on est dans un monde véritablement sous tension multiple et que en étant à la fois en voie de redéfinition de ce que c'est qu'un consommateur, en effet, c'est plus uniquement j'achète, j'achète pas, et avec des clivages de société qui seront probablement assez majeurs, on le voit dès aujourd'hui, mais qui sont appelés à s'amplifier dans les années qui viennent. Voilà. Pardon, c'était un peu long, mais j'ai essayé quand même d'être simple.
Je rebondis sur un point que tu as évoqué concernant les gilets jaunes, parce qu'on avait effectivement son hypothèse sur le fait que Knockdown, qui est une professionnelle assez connectée, etc., est-ce que son comportement était important, qui est en émulation sur le reste de la société, ou au contraire, qui crée des résistances. On verra d'ailleurs un tableau rond numéro 2 sur quelques points que montrera Thierry tout à l'heure, qu'il y a des ambivalences hein, autour de ces tendances. Mais on avait donc, par rapport aux gilets jaunes, une série d'hypothèses. Une hypothèse qui était, en fait, il y a une bifurcation de la société, il y a des gens qui s'y reconnaissent, des gens qui n'en veulent pas du tout. En fait, c'est plutôt une question de possibilité. Et en fait, c'est plutôt la deuxième hypothèse qui s'est révélée. C'est-à-dire que les gilets jaunes ne consomment pas comme les autres, non pas parce qu'ils n'aimeraient pas consommer comme ça, c'est juste qu'ils ne peuvent pas économiquement. Et à partir de là, ça crée des réactions, une certaine frustration, voire d'alliance, comme on l'a vu. Mais on reste sur un modèle différent de celui de la ménagère de moins de 50 ans, évidemment, mais où en même temps, il y a bien une certaine aspiration commune qui existe, simplement, elle est frustrée. Là où dans les années 60, il y avait un certain nombre d'early adapters qui marquaient l'avance, et les autres y avaient accès. Il y avait quelques années plus tard, la télécouleur, même si ils auraient aimé avoir tout de suite. Et on a un peu cette situation, mais décalée en termes de possibilités, parce qu'on n'est pas sur les mêmes niveaux de croissance et du coup d'augmentation du pouvoir d'achat des uns et des autres. Ce que je propose, peut-être qu'on aborde maintenant plus spécifiquement chacune de ces tendances, et notamment la première, qui est une évolution assez majeure de la société, puisque dans le live info, il y a des modes de consommation différents, il y a très en mobilité, mais il y a aussi une évolution du modèle social, le fait qu'on ait de plus en plus d'auto-entrepreneurs, voulus ou subis, on a les deux, et que ça, les acteurs des services financiers ne sont pas très à l'aise, hein, parce que historiquement, faire du crédit par exemple à ces auto-entrepreneurs, c'était une prise de risque assez forte, ça traduisait plutôt des gens qui étaient dans une situation où c'était subi, donc qui n'étaient pas les meilleurs risques de crédit. Et pourtant, on voit que ça se développe, y compris sur les CSP+, et donc il y a besoin de s'adapter avec ça. Je crois que tu veux peut-être réagir, expliquer d'ailleurs comment United Credit aborde ce sujet-là.
Merci. J'aime beaucoup le concept Life in Flow, et je me retrouve personnellement déjà pas mal là-dedans, parce que je dis souvent, j'ai 40 ans, je suis propriétaire ni d'un appartement, ni d'une voiture, ni d'une télé. Enfin, rien. C'est vraiment un mode de vie assez chouette et qui se retrouve là-dedans. Et on n'est pas attaché à des biens physiques. Et ne pas avoir de voiture avec 4 enfants dans Paris, c'est un sacré challenge. Plus sérieusement, sur United Credit, ce que tu décris, c'est-à-dire le fait que de plus en plus de personnes ne soient pas en CDI, alors qu'ils pourraient l'être, ça pose des vraies questions dans l'industrie du financement et du prêt. Puisque les modèles de score de crédit, ils utilisent énormément la stabilité comme un des critères d'évaluation. Et ça peut être une stabilité personnelle, une stabilité patrimoniale, immobilière, stabilité professionnelle. Et on se retrouve aujourd'hui avec une grande partie de la population qui n'est plus en CDI. Et sincèrement, c'est un challenge énorme pour les acteurs du financement. Depuis 50 ans, je veux dire à peu près, les banques et les établissements de crédit ont développé la version 1 des modèles de score, donc totalement basée sur la stabilité. Depuis 2-3 ans, la version 2 des modèles de score s'est développée et elle utilise, on va dire, des données beaucoup plus riches, et notamment les données issues de la DSP2, la deuxième directive sur les services de paiement. Donc le client peut partager son historique de compte bancaire, Et on est, je pense, nous à la pointe au niveau européen là-dessus. On a construit des modèles d'analyse crédit qui tient compte de cet historique de compte bancaire. Mais l'historique de compte bancaire de quelqu'un qui n'est pas en CDI, c'est quand même assez complexe à analyser. Et donc, on commence aujourd'hui chez nous, mais ce n'est que le début, et on n'a pas encore craqué ce sujet, à construire la V3 des modèles de score. C'est ceux qui utilisent des données plus riches, donc l'historique de compte bancaire, mais qui vont devoir être couplés pour des populations comme des slasheurs, des personnes qui ne sont pas en CDI, à d'autres données comportementales qui peuvent nous être partagées par différents biais. On peut agréger l'historique de toutes leurs transactions sur des sites marchands, peut-être. On peut regarder leurs habitudes d'utilisation de services comme Airbnb, etc. Enfin, pour savoir s'ils ont les moyens de se déplacer, de voyager. Et ça va poser un gros challenge parce qu'il va falloir construire ces nouveaux modèles d'analyse crédit pour servir en particulier ces populations. Donc, ce sujet-là nous met un grand défi devant nous et sincèrement, je crois que personne encore de nos jours dans l'industrie bancaire a réellement résolu ce sujet. Ça va être intéressant de voir ce que vont faire des acteurs comme Conto, fort de sa dernière levée de fonds, qui est spécialisé, des acteurs comme Conto ou Shine, qui sont spécialisés dans cette clientèle-là, donc des néobanques pour des professionnels. En matière de financement, on réfléchit déjà, nous, avec un certain nombre d'entre elles, mais ça ne va pas être évident à résoudre.
Une autre question pour François, cette fois-ci. Dans la thématique de la FinFlow, il y a également toute la dimension du télétravail, qui de nouveau peut être voulu ou subi, pas seulement dans les règles. Là-dessus, comment est-ce que tu vois les choses? À quel point c'est une tendance de fond qui est vraiment voulue ou c'est une évolution en partie promue par la technologie mais qui va au-delà de ce que serait l'appétit vraiment des gens pour ça?
Je crois qu'il y a eu trois temps sur cette question. Il y a eu une première période qui était une période d'adoption parce que ça, financièrement pour l'entreprise, ça peut permettre d'améliorer les choses. Pour le salarié, ça peut permettre de travailler dans des conditions qu'on préfère, etc. Donc, il y a des cadres généraux qui paraissent intéressants. Aujourd'hui, on est dans un deuxième temps qui est une période de transition et qui est plus complexe. Parce qu'émerge la question du qu'est-ce qu'on fait tous ensemble dans l'entreprise. On est confronté à ce type de demande très régulièrement. On travaille dans la même entreprise, quel est le lien qui est entre nous? Donc le télétravail n'est pas nécessairement préjudiciable, mais il pose un enjeu de la construction, de la permanence de l'échange et de la relation entre les gens. Et puis se pose la question du sens, dont vous parliez tout à l'heure aussi. C'est-à-dire, si je peux être chez moi, comment s'articule mon articulation vie pro, vie perso? Télétravail, ça peut être très bien, à condition que ce ne soit pas totalement chronophage, etc. Donc on est dans une période, je dirais, plus difficile en termes de perception. Puis il y a probablement, pour l'avenir, une troisième hypothèse qui est celle d'une délocalisation beaucoup plus large, c'est-à-dire à la fois de la construction de discours d'entreprise et de la capacité pour quelqu'un de télétravailler, non pas seulement parce qu'on habite dans le 14e et que son entreprise est dans le 9e arrondissement, mais parce qu'on peut télétravailler de manière radicale, beaucoup plus lointaine, beaucoup plus assumée, avec une réflexion sur le réaménagement des territoires, mais ça suppose une vraie réflexion de fond. Donc je crois qu'il y a télétravail, pour résumer, je crois qu'il y a un avenir, je crois qu'il est dans une période un peu difficile aujourd'hui, en termes de signification peut-être dans un certain nombre d'entreprises, mais le point de départ était positif.
Cyril, d'ailleurs, est-ce que chez Lydia, on télétravaille activement?
Oui, on télétravaille très activement chez Lydia. Enfin, on espère que les gens qui télétravaillent sont actifs, quoi. Qu'ils ne fassent pas le matin de travail, l'après-midi de télé. Non, je plaisante. Oui, c'est une composante forte de la manière dont on travaille chez Lydia. On a beaucoup de gens qui télétravaillent, alors, qui télétravaillent parce qu'ils habitent dans notre ville. Ils habitent à Toulouse, ils habitent à Bordeaux, ils habitent à Strasbourg, ils habitent à Marseille, ils habitent à Lyon, un peu partout, à Grenoble. Et parce que finalement, ce qui nous attire dans tout ça, c'est quand même qu'il faut trouver les meilleurs talents pour construire la meilleure entreprise possible. Et les meilleurs talents, ils sont partout. Il n'y a pas besoin de les faire venir à Paris 2 pour travailler. Ils sont aussi talentueux quand ils sont à Grenoble que quand ils sont à Paris. Il n'y a pas besoin de persécuter tout le monde avec les grèves. Enfin, voilà. Il faut faire les choses bien. Il y a aussi une réalité qui est que il y a des moments où on a envie, besoin de changer de cadre. Et nous, on a des gens qui, pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois, vont travailler à partir de l'Australie, Tahiti, la Bretagne, enfin où ils veulent. Et ça pose évidemment des questions et ça nous oblige à créer des outils et des processus pour faire en sorte qu'on travaille aussi efficacement dans ces modes, on va dire, ouverts et agiles, puisque ben, un jour je suis là et peut-être pendant 3 mois je ne vais pas être là. Mais ça rend aussi, du coup, l'entreprise beaucoup plus forte, puisque ça lui permet d'attirer des talents du monde entier et de couvrir des amplitudes horaires 24 par 7, de faire plein de choses, de mélanger les cultures, de faire plein de choses qu'on pourrait pas faire si on était de manière monolithique dans un bureau.
La deuxième tendance qu'on a évoquée, c'est le on-demand everything. Ça suppose d'avoir des parcours clients extrêmement rapides. Et ça, dans le secteur des services financiers, c'est pour les fintech, même si elles réinventent ce côté-là. Est-ce que tu peux évoquer un peu sur les problématiques de paiement, comment vous abordez ça, vu l'ensemble aussi de la réglementation, de KYC, de capacité à gérer au standard des superviseurs et des régulateurs ces parcours clients et qui, par nature, va pas dans le sens de la fluidité.
Je ne pourrais pas contredire là-dessus. Néanmoins, il y a 3 éléments qui sont vraiment structurants chez nous. La première chose, c'est que la réglementation, ce qu'on doit faire, ne peut pas être contrôlée. On ne joue pas avec. Donc c'est central, on construit autour de ça. Et en vrai, le cerveau humain fonctionne mieux avec des contraintes. Si je vous dis où est-ce que vous voulez aller passer des vacances sans aucune contrainte, ça va vous prendre longtemps pour trouver. Sans contrainte de temps, sans contrainte d'argent, sans contrainte de date, sans contrainte de rien, c'est ça. Le cerveau ne travaille pas bien comme ça. Le cerveau aime l'humain, aime les contraintes. Et nous, dans le service financier, on a de la chance. Vraiment, on peut vraiment bien faire bosser le cerveau humain. Il y a des contraintes de partout. Donc voilà, elles sont là, on les pose et on travaille autour de ça. Pas pour être de l'autre côté de la ligne, pas pour avoir le pied sur la ligne, donc pour être dans la ligne, mais très près d'elle. Et donc vraiment occuper tout l'espace. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on essaye de réfléchir de manière à la fois rationnelle et émotionnelle. Donc rationnel, c'est regarder ce qu'on veut faire, ce que les gens ont besoin de faire, pas en termes monétiques, mais en termes fonctionnels, en français. Donc, je veux mettre de l'argent sur un compte, par monnaie, n'importe quoi, un endroit B, à partir d'un endroit A. C'est ça que je veux faire. Aujourd'hui, si je veux mettre de l'argent de mon compte A dans mon compte B, il faut que j'utilise des connaissances monétiques pour pouvoir le faire. La preuve, si je fais un chèque et que je dois aller déposer le chèque, soit dans une agence, soit dans une machine qui fait des chèques, donc je dois comprendre comment ça marche. Si je fais un virement, c'est pareil, je dois comprendre comment ça marche. Je dois connaître l'IBAN du compte destinataire, je dois l'ajouter comme une ok. Donc la banque m'impose de comprendre ces contraintes monétiques. En vrai, je m'en fous. Je pense que ça m'intéresse pas, quoi. C'est le problème de la banque. Il n'y a aucune raison que moi, je me prenne la tête avec savoir comment ça marche dans le système IT de la banque. Pourtant, c'est comme ça que ça marche. Donc, nous, on ne pense pas comme ça. On pense, je veux bouger un actif digital, en l'occurrence de l'argent électronique, d'un point A à un point B, en français, comment est-ce que je fais ça? Et donc, pour bouger un actif digital dans le monde digital, ce que je fais, c'est que je drag and drop. Je glisser, déposer. C'est ça qui se passe. Imaginez que vous êtes en train de faire un PowerPoint, vous voulez prendre un objet d'un endroit A à un endroit B, un actif digital d'un endroit A à un endroit B, vous cliquez dessus, vous le bougez, vous le lâchez. Il n'y a aucune raison que ce soit pas pareil pour votre argent. Quelle que soit la transaction sous-jacente, transaction de monnaie électronique, virement, carte, on s'en fout, c'est pas le sujet. Okay. Oubliez tous ces trucs-là, c'est les banquiers qui vous ont mis ça dans la tête parce qu'ils avaient envie de vous faire prendre la tête. Okay. Chez Liga, je vais vous le montrer, parce qu'on parle d'expérience client, c'est quand même un peu mieux. Donc voilà, là j'ai tous mes comptes, vous voyez, c'est des dalles, ça ressemble un peu à Windows il y a quelques années. Le principe de dalle, c'est un bon principe, hein. Chez Microsoft, ils font des trucs super. Pas tout, mais des trucs super. Et là j'ai tous mes comptes. J'ai mes comptes Lydia, j'ai mes comptes Lydia perso, j'ai mes comptes Lydia partagé, j'ai mes comptes Lydia joint, j'ai mes comptes bancaires, Et si je veux bouger de l'argent de A à B, ben, ce que je fais, c'est ça.
Je prends de l'argent là, je le mets là, avec évidemment une reconnaissance biométrique, je mets le montant, enregistre le montant, un petit emoji parce que bon, il faut bien mettre des emojis, mais on peut mettre des aussi. Bien sûr, disons que c'est pour les bières, un peu d'eau. C'est le premier dans la vie. Ok. Et instantanément, l'argent est mouvementé dans le contact. Fais ça parce qu'on pense. Vraiment, méchanceté.
On fait ça parce qu'on pense que c'est ce que les gens veulent. Ils ne veulent pas comprendre la complexité du monde. Ça ne les intéresse pas. Ça n'intéresse personne. Donc ça, c'est le rationnel. Et on passe beaucoup de temps avec beaucoup d'équipes à peaufiner ça au papier de verre triple zéro. Toutes les journées, on ne se contente pas de ce qu'on a. On dit, alors comment on fait pour enlever encore ce petit truc-là, cette petite friction, pour que ça soit extrêmement lisse. Donc ça, c'est la partie rationnelle. La partie émotionnelle, c'est... Mon argent aujourd'hui, c'est quelque chose d'extrêmement froid. Honnêtement, vous regardez votre interface bancaire, ça fait peur. Si vous avez un compte, vous ne savez pas lequel est lequel. Il faut que vous appreniez les derniers chiffres par cœur, parce que sinon, vous ne savez pas quoi ça va. Vous ne comprenez rien. Il n'y a aucune émotion là-dedans. C'est des séries de lettres et de chiffres hyper froids. Et pourtant, mon argent, ce n'est pas froid. C'est quelque chose dont je vais me servir pour des projets de vie. Alors, pour de la consommation, mais peut-être pour des voyages, pour plein de choses. Pour mes enfants, pour... OK. Et donc, c'est important de ramener, finalement, l'émotion, la vie, ce qu'on va faire avec, la finalité, le sens, dans ces interfaces digitales qui, elles aussi, peuvent être très froides. Donc, je vais refaire le coup de la démo, je n'aurais pas dû le rentrer dans ma poche. Donc, sur mes comptes, là, vous voyez, y compris pour mes comptes bancaires, je peux ajouter une photo, et ben, voilà, le compte joint que j'ai avec mon épouse, il y a le plafond de l'Opéra de Paris avec. Pourquoi ? Ben, on adore aller à l'Opéra. C'est notre truc préféré. On est fans d'opéra tous les deux. Ben, c'est cool d'avoir le plafond de Chagall pour représenter ce conjoint. Et je peux aussi lui donner un nom. Bon, là, il s'appelle conjoint. Alors, je peux l'appeler conjoint, c'est pas très utilitaire. Mais j'ai aussi des comptes partagés avec mon épouse et chacun de mes fils qui s'appellent, ben, pour le premier, le nom de mon fils aîné, Guido. Et pour le deuxième, le nom de mon fils cadet, Solal. Et sur chacun des comptes, il y a une photo de mon épouse et mon fils. Et du coup, ben, quand je transfère de l'argent, quand mon épouse, qui partage aussi ce compte, transfère de l'argent à un de nos deux fils, et ben, c'est concret, quoi. On donne de l'argent à nos enfants. C'est comme quand on remet un billet dans la main à la main, il y a un côté émotionnel. Et il ne faut pas que le digital enlève ça, sinon ça ne va pas marcher. Et vraiment, il va y avoir une grosse réaction antidermique. Donc, c'est vraiment important de mélanger le rationnel et l'émotionnel.
Alors, on voit effectivement que le parcours, ce n'est pas que de la contrainte réglementaire, c'est de l'émotionnel et c'est la capacité à rendre ça davantage facile, mais aussi porteur de sens. Dans le crédit, il y a aussi des difficultés qui peuvent être autour de l'immédiateté, la capacité à prendre la décision très rapidement, la capacité de mettre à disposition la façon de présenter, parce que parfois, entre le crédit et le paiement, la frontière est de plus en plus floue. Hein, c'est le crédit, c'est le paiement, dans l'esprit du consommateur, c'est pas si clair. Comment est-ce que toi, tu abordes ces questions d'expérience client, de facilité et justement de dépasser certaines des contraintes, des cloisonnements qu'il y a pu y avoir dans les services financiers historiquement? Est-ce que ça fait partie des choses sur lesquelles vous travaillez activement, ou au contraire, il y a vraiment des obstacles?
C'est une bonne question, parce que je pense que on a parlé du paiement, tout a l'air magique, simple, en une seconde. Le crédit, je pense, c'est vraiment et on l'a tous vécu à un moment, c'est le produit financier le plus long au monde. C'est insupportable. Un crédit IMO, j'en ai jamais fait, mais apparemment, ça peut s'étaler sur des mois. Alors, le crédit aux entreprises, je crois que c'est assez fréquent, ça dure plus de 6 mois. Un crédit conso simple pour acheter une voiture, si vous le faites dans une agence bancaire, il faut déjà le temps d'avoir le rendez-vous et de faire connaissance avec le nouveau conseiller, c'est 3 semaines. Et sur le crédit à distance, les noms connus en France, enfin, comme je dis, etc. Le standard, c'est entre 2 et 4 jours. On est à des années-lumière des notions d'instantanéité. Et donc, nous, on a essayé de s'attaquer à ça. Ça fait 3-4 ans qu'on a lancé la promesse de « on vous donne une réponse en moins de 24 heures ». Dans les faits, dans la plupart des cas, on la donne en quelques minutes. Mais d'où va venir, finalement, comment donner des réponses immédiates sur un produit assez complexe comme celui-ci, car risqué? Parce que si on prend une décision en une fraction de seconde et que c'est une mauvaise décision de crédit en tant que banque, etc., vous faites faillite. La réponse, elle va venir de la DSP2, la deuxième directive sur les services de paiement, qui est un concept simple et puissant. Les banques ne sont pas les propriétaires de votre historique de compte bancaire. Qui est le propriétaire? C'est le consommateur. Donc, jusqu'à il y a quelques mois, on considérait que toute cette historique de compte bancaire, toute la liste de vos transactions, débit, crédit sur les 6-12 derniers mois, vous n'avez pas la main là-dessus, c'est votre banque, données protégées. Maintenant, ce qui se passe, c'est que c'est vous qui êtes propriétaire. Et quand vous êtes propriétaire de quelque chose, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez en faire ce que vous voulez. Et si vous voulez donc partager ces données avec un acteur comme United Credit, dans le cadre d'une demande de financement, vous avez le droit. C'est pas le futur, je le disais hier soir, c'est le présent. On a lancé ça il y a 2 ans, et je pense que c'est des choses qui m'a le plus frappé depuis la création de United. Entre 60 et 90% des clients à qui on propose de faire cela, parce qu'on ne l'impose jamais, l'alternative, c'est qu'ils nous donnent leur dernier relevé de compte bancaire, version PDF téléchargée sur leur espace client. Nous, ce qu'on leur propose, c'est ils donnent le nom de leur banque, leur login, leur mot de passe, et on accède à toute leur historique de compte bancaire, on le traite en une fraction de seconde, on l'analyse, on catégorise ses dépenses, et on construit des modèles de score basés là-dessus. Et on travaille pour cela avec des agrégateurs de comptes bancaires, qui sont en marque blanche, le client ne les voit pas, mais en France, c'est notamment l'INXO. Donc voilà, les passerelles avec les banques sont opérées par l'INXO, toutes les données sont récupérées. Ce qui m'a frappé, c'est l'usage massif qu'en font les consommateurs. Donc en général, ils ne connaissent pas, parce que United Credit est moins connu que Lydia, on a que 300 000 clients en termes de nombre de clients. Donc ils viennent sur notre site, ils ne nous connaissent pas et ils partagent toute leur historique de compte bancaire dans 60 à 90% des cas. Et à ce moment-là, on prend effectivement des décisions qui sont automatiques en une fraction de seconde. Et voilà, donc il y a une évolution majeure dans le domaine du financement qui est amenée par la deuxième directive sur les services de paiement et qui va permettre effectivement d'atteindre une instantanéité que jusqu'à maintenant dans les services financiers, on ne connaissait que dans le monde du paiement. Enfin, l'image de base, c'est vous avez votre compte Lydia, vous avez une carte physique et vous payez en magasin, vous partez avec le bien. Ça prend une fraction de seconde. Le crédit, le financement est en train d'accéder à ce même niveau d'instantanéité et du coup, il peut devenir un moyen de paiement. On avait lancé il y a 12 mois avec Free la possibilité pour le client d'étaler le paiement de sa Freebox sur 48 mois. Donc il paye 10 euros par mois, 480 euros divisé par 48, 10 euros par mois, c'est un crédit à taux zéro étalé sur 48 mois. Et en une fraction de seconde, le client utilise le crédit comme un moyen de paiement étalé de long terme, hein, c'est pas du 3-4 fois. Voilà, donc il y a clairement des nouveaux standards d'instantanéité. Ce qui est limite inquiétant, parce que je reparle de ta partie l'affectif, les photos, la techno qui enlève toute la partie humaine. Bientôt, effectivement, les décisions de crédit seront 100% automatisées et instantanées. Or, c'est quand même un acte engageant d'emprunter. Et donc, nous, on réfléchit en fait à ce qu'on va rajouter comme brique humaine, relationnelle à cela. Je prends un exemple. Oui, on va donner des décisions en automatique, en quelques secondes. Mais ça va devenir tellement impalpable, presque aussi qu'un paiement, tu l'évoquais, d'un taxi. On sort d'un Uber sans payer. Ça va devenir tellement impalpable qu'on réfléchit à qu'est-ce qu'on doit recréer comme relation avec le client pour lui faire réaliser qu'il a fait un acte financier engageant. Donc concrètement, je vois un truc de base, ça peut être de l'appeler pour lui dire, voilà, écoute, t'as fait un prêt, je vais t'expliquer à quoi ça t'engage.
Je suis obligé de te l'expliquer parce que tu l'as fait tellement simplement que je dois te fournir ce conseil-là. Et puis, je te précise que tu as un délai de rétractation. Tu l'as fait en une seconde, mais tu as 7 à 14 jours si tu veux te rétracter. Et bien sûr, tu le fais sans frais, etc. Donc, ça pose des questions majeures, justement, de comment on remet du relationnel. Une fois qu'on a mis 100% de techno, il faut rajouter, en fait, une brique affective, humaine, relationnelle avec les consommateurs.
J'ai également une question sur jusqu'où ça va. Tu as évoqué la DSP2, donc le fait que la donnée appartient au client, que pour faire un crédit, c'est assez légitime de lui demander. Donc, en tout cas, ceux qui souhaitent un crédit ont tendance à accepter cette demande-là. Et la philosophie générale de la donnée appartient au client, elle est aujourd'hui en Europe beaucoup plus large avec la RGPD, qui a exactement la même philosophie, qui ne normalise pas comme la DSP2. La DSP2, le jour où elle sera vraiment appliquée, la manière d'accéder à cette information, mais où, de façon plus globale, on pourra avoir d'autres informations qui peuvent être assez pertinentes pour le crédit, qui peuvent être parfois dans l'état d'ailleurs d'autres services financiers, mais où un acteur des services financiers, une fintech, peut être perçu comme moins légitime. En tout cas, ça peut poser plus de questions au client. Est-ce que tu vois des développements qui vont là et où aller chercher de la donnée plus large que de la donnée financière va devenir important, et dans ce cas-là, jusqu'où ça va?
Nous, pour l'instant, on réfléchit que sur la partie données financières. Parce qu'on peut dire, mais on va récupérer votre historique de compte Amazon ou aller voir, faire un partenariat avec Uber pour voir les déplacements que vous faites ou voir si vous utilisez Airbnb. Mais à travers son historique de compte bancaire, en fait, il y a toute sa vie, il y a toutes ses transactions, il y a toute son historique. Donc la complexité, ça va plutôt être non pas d'agréger avec d'autres types de données, même si pour certains profils comme ceux qui ne sont pas en CDI ou les jeunes ou les étudiants, etc., finalement avoir accès au compte bancaire, ça ne va pas apporter grand chose. Donc on va devoir s'appuyer sur d'autres types de données. Non, la vraie complexité, c'est lié à la multibancarisation, le fait que les clients utilisent différents comptes. En fait, on dit accéder à la donnée d'historique, à leur historique de transactions bancaires, mais cette historique qui va maintenant être dispatchée, et il y en a une partie sur l'IA et une partie sur mon compte bancaire, qui va être dispatchée sur pas mal de comptes. C'est ça la nouvelle, ça va être ça la nouvelle complexité. Mais on va rester, je pense, principalement, en tout cas dans le domaine du financement, sur l'exploitation de données bancaires, transactionnelles, des comptes en fait et des opérations bancaires des clients.
Question pour Cyril aussi par rapport à ça. Tu as parlé tout à l'heure de Tencent en disant que c'est un leader de paiement, c'est un leader de plein d'autres choses, etc. En Chine, ça veut dire aussi dans la manière d'aborder l'existence des clients, leur donner une vision qui est beaucoup plus large. Dans le cadre des questions, comment est-ce que tu vois les choses évoluer en Europe? Est-ce que le paiement, ça va rester une brique spécifique, différente du reste, ou c'est progressivement, du fait du chaînage autour de la data, quelque chose qui va s'intégrer dans un univers beaucoup plus large? Comment est-ce que tu vois l'évolution par rapport à le paiement seul, le paiement et d'autres services financiers, comme tu avais commencé à évoquer, mais aussi le paiement totalement intégré dans la vie du client, qui d'ailleurs ne se rend même plus compte à un certain point qu'il paye, comme quand on sort d'un bain et est encapsulé dans l'autre chose.
Ok, j'ai l'impression qu'il y a au moins 6 questions dans ta question. Mais voilà, je vais essayer de répondre rapidement. Un, non, les Chinois ne vont pas piquer vos données Lydia. Ça, on peut le mettre de côté. Cette question beaucoup, je ne sais pas pourquoi, je pense que si on avait fait rentrer à Palo Capital, tout le monde aurait dit ah, alors bon, ou Facebook, bref, qu'importe. Donc, le premier sujet, c'est vraiment les données personnelles. À la fois, on voit, grâce à RGPD, pour moi, DSP2 n'est qu'une application aux services financiers de RGPD, hein, c'est la même chose. Ça va aller partout. On redonne de la propriété aux consommateurs, et franchement, c'est bien. Il faut arrêter de prendre des gens pour des idiots qui ne comprennent pas ce qui se passe. Comprennent ce qui se passe. Il y a des gens qui sont un peu plus difficiles, mais pour beaucoup de gens, c'est très très clair. Et je pense qu'on va dans un avenir où les gens vont non seulement comprendre qu'est-ce que c'est ces données-là, à quel point elles sont importantes, et peut-être même où ils vont les monétiser, et de manière extrêmement consciente. Franchement, aujourd'hui, Facebook devrait être une coopérative. Le vrai modèle de Facebook, ça devrait être une coopérative. Parce que des gens qui font tellement d'argent avec mes données, sans que moi, j'en retire rien, ça va durer pas si longtemps que ça, je crois pas. Je dis Facebook, c'est vrai pour tant d'autres. Donc, est-ce que les données vont être au cœur de tout? Oui, elles vont être au cœur de tout. Est-ce que les gens vont être conscients que les données qui sont utilisées? Oui, de plus en plus, parce que c'est obligé, mais aussi parce que c'est sain et parce que, enfin, nous, en tout cas, on veut être très transparent sur ces sujets-là et on veut expliquer, voilà, on va utiliser ça, est-ce que tu es OK pour l'utiliser et pour faire ça? Et à partir du moment où on est très au clair là-dessus, c'est la liberté de chacun de dire ça oui, ça non, ça oui, ça non. Et on va essayer, oui, de mettre de plus en plus de données au cœur de chaque chose. Donc, on ne veut pas, ben, c'est pas un problème, c'est pas caché, c'est pas obligé. Et ça, c'est vraiment important, cette liberté-là. Mais bien sûr qu'on va mélanger les historiques de paiement et les historiques de transactions non paiement, par exemple, souscription d'assurance, souscription de crédit, des choses comme ça, pour avoir finalement une idée de qui est cette personne et jusqu'à quel point elle a envie qu'on lui propose de nouvelles choses. Et si elle n'a pas envie, elle n'a pas envie, c'est pas grave. On ne va pas gaver les oies comme on faisait à l'époque. Lundi matin, cette semaine, bon, on prend tous les gens qui sont à découvert, on leur propose un crédit. Allô, monsieur machin, vous êtes à découvert, vous savez, c'est un peu limite. Ça, c'est fini. Et par contre, bien sûr qu'on doit quand même proposer des services aux gens, de le faire de manière pertinente. Et pour ça, il faut utiliser le maximum de données possibles, mais le faire de manière transparente, intelligible, en français, pas du verbiage et du jargon.
François, tu as des réactions sur justement le rapport des personnes à la donnée, l'ouverture ou la volonté de la partager, ou au contraire les inquiétudes qu'ils peuvent avoir, comment ça évolue?
Oui, il y a eu. Alors, il y a deux choses, je crois. Il y a la donnée que l'on délivre à un opérateur. Jusque-là, en général, ça va assez bien. Là, le premier point qui pose problème, c'est le risque de diffusion des données personnelles à plusieurs opérateurs. C'est ce qu'on voit par exemple dans le cadre de la mobilité dans les villes du futur. Si vous installez des véhicules autonomes avec de la 5G dans une ville du futur, ça veut dire que vos données personnelles peuvent être ou doivent être partagées entre la régulation au niveau municipal, la voiture, votre téléphone portable et les opérateurs de téléphonie, éventuellement s'il y a des capteurs sur la route, les gens qui construisent la route, etc. Donc là, la question qui se pose, c'est je veux bien faire confiance à un opérateur, mais s'il y a un partage de données entre plusieurs, c'est-à-dire que je n'ai plus la maîtrise, je n'ai plus la main au fond sur le parcours de mes données personnelles. Donc ça soulève une inquiétude. Le deuxième élément, c'est la confiance. C'est très intéressant, on parlait tout à l'heure des banques et du système financier. Des acteurs aujourd'hui comme les banques conservent, mais c'est très bien pour elles, la confiance de leurs clients sur la confidentialité des données. Alors, il peut y avoir du discrédit sur la banque de manière générale. En revanche, sa propre banque à soi, on lui accorde un peu plus de confiance, son conseiller financier un peu plus, mais sur la gestion des données personnelles, il n'y a pas trop de mise en cause de cette confiance-là. Et puis le troisième point sur cette question de la confiance et les données, c'est la pratique, c'est-à-dire l'expérience. Là, je rejoins tout à fait ce que vous dites, c'est-à-dire si je délivre une partie de mes données personnelles à un opérateur, et si jour après jour les choses se passent bien, j'en déduis avec l'expérience que ça ne va pas nécessairement se retourner contre soi. On parlait tout à l'heure du conjoint, on a rencontré un consommateur qui nous a dit, moi, livrer mes données personnelles à Google, ça ne me pose aucun problème. Jamais, jusqu'ici, Google ne s'est retourné contre moi. Peut-être ça viendra, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ce qui m'embête, c'est que mon épouse est accès à mes données personnelles. Mais mon épouse peut se retourner contre moi. Donc, voilà, c'est une question d'expérience. Donc, la question, la confiance, puisque sur lui, il y a un compte, voilà, la confiance, ça n'est pas quelque chose qui se décrète. Si dans la durée, on constate que on a une expérience qui est plutôt heureuse, qui ne se retourne pas contre soi, ça incite à construire la confiance.
Il y a une question de confiance par rapport aux données, au partage de données, mais il y a également une question de confiance ensuite par rapport au fait de fournir du conseil par rapport à cette donnée. Donc à quel point je commence à faire confiance à un robot pour m'aider dans ma gestion financière, dans mes choix de loisirs, etc. Là-dessus, est-ce qu'il y a, de nouveau, c'est une tendance de fond qui se développe, ou est-ce que tu vois aussi des limites à ça?
Alors, ça rejoint le point précédent, à savoir la fragmentation de la société. C'est-à-dire qu'on peut avoir des gens qui sont extrêmement appétents pour tout ça, un peu comme sur le télétravail d'ailleurs. Gens qui sont très appétents pour tout ça, qui disent, bah, au fond, tant que le système, si un robot, pour reprendre ton expression, se substitue à ma prise de décision, et si le résultat est performant, vous êtes dans un embouteillage, vous avez un robot qui vous guide et qui vous permet d'arriver à l'endroit que vous voulez plus rapidement que vous ne l'auriez fait par ailleurs, très bien, on y va, on le fait. C'est le scénario d'adoption heureux pour des dispositifs grand public. En revanche, on a une partie des publics, dans tous les pays, en Europe et aux États-Unis, qui sont a priori, par principe, extrêmement rétifs à ce genre de démarche. Je prends juste un exemple pour ne pas être trop long, là aussi, c'est sur la reconnaissance faciale, tout à l'heure on l'a vu à l'œuvre. On a aujourd'hui 30%, sur le principe, uniquement sur le principe, on a aujourd'hui 30% des Français qui souhaitent le développement de la reconnaissance faciale dans son principe. Les autres sont soit indifférents, soit virulemment opposés au principe de la reconnaissance faciale. En revanche, c'est là que ça devient intéressant, quand on a une appli ou un dispositif qui fait que, bah, en échange de ça, on accélère une démarche, c'est beaucoup plus fluide, pour revenir à votre société fluide du début, bah, on se dit, tiens, le grand principe s'effondre un peu, ça marche, on l'accepte. Donc oui, bah, reconnaissance faciale, à la limite, est-ce bien de la reconnaissance faciale, ça marche, j'y vais. Mais on est dans un moment, je crois, assez historique, où il faut surmonter des réticences qui souvent sont des réticences de principe. Et pour résumer, le truc me fait peur. Voilà. L'usage permet de dépasser ces préventions de principe qui peuvent inciter une partie des consommateurs à être réticents, voire à rejeter a priori une partie de ces nouvelles solutions.
Dernière question qui est sur la personnalisation, donc on a vu qu'elle était aussi une des tendances. Cyril, tu as évoqué en prenant l'exemple des paiements, la manière de personnaliser, y compris chacun des comptes. On voit bien cette forme de personnalisation, mais il y a aussi une question de à quel point on personnalise vraiment le service, à quel point ce qu'on propose, c'est des éléments de personnalisation un peu émotionnels, ou est-ce qu'à un moment, on est capable industriellement de proposer des choses qui sont de plus en plus spécifiques à une personne, et est-ce que c'est de l'esprit ou est-ce qu'il y a vraiment des choses dans ce domaine?
Alors, d'abord, l'émotionnel n'est pas accessoire. C'est triste de penser c'est pour faire beau. Okay, c'est pas pour faire beau, c'est pour donner du sens. Donc le sens n'est pas accessoire. C'est, vraiment, il faut arrêter de penser ça, c'est un grave biais de penser que le sens. Enfin, c'est pour faire beau, c'est pas pour faire beau. Ok, ça fait beau, c'est une conséquence de ça a du sens, mais c'est pas fait pour faire beau. C'est fait pour donner du sens. Et c'est vraiment central. La deuxième chose, oui, évidemment. Nous, chez Lydia, on a distingué deux mondes, le monde du conseil et le monde des outils. Et on veut pas être dans le monde du conseil. Donc on ne fait pas de conseil. On met à disposition des outils. On met à disposition des services, mais on ne fait pas de conseils. Donc, à partir de ce moment-là, on élimine une partie de la discussion. Néanmoins, sur la partie outils, évidemment, on ne va pas mettre à disposition tous les outils ou pour tout le monde. Et en plus de ça, à certains, on ne va leur montrer qu'une partie d'un outil. Donc, on va limiter la gamme proposée aux utilisateurs, mais aussi dans un même produit, on va peut-être limiter la profondeur d'un produit. Je vais prendre l'exemple du crédit. Pour certains utilisateurs, on ne va pas leur proposer de crédit du tout. Pourquoi ? On a estimé avec les algorithmes qu'ils ne sont pas éligibles. Ou en tout cas, on ne veut pas les mettre dans une situation de tentation. Mais pour d'autres, on va leur proposer du crédit avec un montant limité. Voilà. Pourquoi ? On pense que ça correspond. Et donc, on ne leur propose pas un crédit qui peut aller jusqu'à 30 000 euros en leur faisant clignoter 30 000 euros. On leur dit, OK, toi, si tu veux, tu peux aller jusqu'à 300 euros. Donc, le produit est bridé en fonction de la personne. Donc, évidemment, c'est quelque chose qui est basé sur le data, sur l'analyse faite par des algorithmes de machine learning et d'intelligence artificielle. Évidemment, c'est quelque chose qui va rentrer en compte dans tous les produits et encore plus dans ce cadre de transformation de l'ignorance et de supérable de services financiers et de la distribution de produits tiers.
Donc, effectivement, on va passer à la partie questions et réponses. Est-ce que vous avez des questions pour le panel? Je pense qu'il y a quelques micros.
J'avais une question par rapport à ce que vous avez dit sur le conseil et par rapport justement à ce qu'a dit Cyril à l'instant. Qu'est-ce que vous allez faire dans le conseil? Vous avez dit que c'était un projet de 2020, si je me souviens bien.
Tous les algorithmes qui analyse les transactions bancaires et qu'on utilise depuis quelque temps pour prendre des décisions de crédit, on va les utiliser pour fournir des conseils d'optimisation budgétaire aux clients. Donc, je fais très simple, pour construire un algorithme d'analyse crédit, notamment l'historique de tous les impayés, les commissions d'intervention, le nombre de jours en découvert par mois, c'est une donnée clé. On va utiliser ce même algorithme pour dire, bon, on a analysé votre profil, les moments où vous êtes en découvert, etc. Vous êtes toujours sur une banque physique. Si vous passiez dans telle banque en ligne, compte tenu de votre profil, des frais de cette banque en ligne, vous économiseriez 724 euros dans l'année. Vous, c'est pas oui, passer à la banque en ligne, ferait des économies. Non, non, c'est vous, compte tenu de votre profil, de ce que j'ai vu sur vos 12 derniers mois, je vous propose d'aller voir telle banque en ligne et vous économiserez tel montant. Et voilà, c'est ce type de choses. Alors là-dessus, on devient un apporteur d'affaires pour des nouveaux partenaires. En Espagne, on est devenu un gros apporteur d'affaires de ING Direct, par exemple, la banque en ligne ING Direct, qui est plus grosse que Boursorama en France, hein, pour donner un peu la taille d'ING en Espagne. Mais ça peut aussi être des conseils gratuits, par exemple. Enfin, gratuit, c'est-à-dire qu'on donne, on n'en attend rien en retour, c'est j'ai observé que vous êtes à découvert 3 jours par mois en général, parce que tout simplement votre salaire tombe le 28, mais votre mensualité de crédit, de tel crédit auto, tombe le 25. Comme je vois que votre crédit auto, vous l'avez chez CTLM Finance, n'importe quoi. Nous disons, United, que le changement de date de prélèvement chez CTLM Finance, vous pouvez le faire gratuitement 3 fois par an, et voilà la procédure. Et voilà. Et donc, on apporte un conseil où, en 3 clics, et on peut même lui faciliter cette démarche, on va faire réaliser des économies à ce client.
Bonjour, excuse-moi. Alors, merci pour cette tendance. Quand on les regarde, cette fluidité, cette demande de zéro contrainte, cette mobilité, cette volonté de l'accès rapide, simple, etc., des consommateurs de demain, et qu'on le compare avec la contrainte, cette barrière à l'entrée que sont les mots de passe, le silotage de tous ces comptes, Airbnb, Uber, Lydia, Ma Banque, etc., etc., tout ce silotage et cette accessibilité d'un compte à l'autre, comment vous y répondriez? Est-ce que seule la techno peut y répondre? Est-ce qu'il y a d'autres voies? Est-ce que la biométrie, etc., est la clé pour dépasser cette barrière de l'entrée via de tous ces mots de passe? Comment vous voyez les choses sur cette barrière à l'entrée?
Alors, oui, la techno et la techno pour répondre à votre question. Je ne vois pas grand chose d'autre qu'on peut faire à part la techno pour aider ça, et dans ma tête, la biométrie, c'est la techno. Donc, oui, les mots de passe, c'est pénible. Oui, la biométrie, c'est mieux que les mots de passe pour accéder. Une fois qu'on a accédé, le fait que mon compte Uber ne soit pas mélangé avec mon compte Lydia, j'ai envie de dire, c'est sans doute comme ça pour encore longtemps, mais il y a quand même des choses qui sont en train de se regrouper. Par exemple, dans Lydia, je peux voir tous mes comptes bancaires, en plus de mes comptes Lydia. Et dans pas très longtemps, mais personne ne tweet, je peux aussi voir un historique agrégé de tous mes comptes, ce qui me permettra de rechercher, par exemple, une dépense à travers mes comptes, de manière assez fluide. Est-ce que je pourrais aussi agréger mon compte supermarché et mon compte VTC? Peut-être dans un deuxième temps, mais en tout cas, on voit bien que tout ça est basé sur cette même logique de RGPD et de « je sais mes données et je les donne à qui je veux » et certainement que dans un deuxième temps, de l'application de ce grand principe qui est vraiment fondateur de cette nouvelle version du monde digital, oui, je pourrais agréger tout ce que je veux avec mon consentement.
Bonjour. J'ai une question sur la vitesse d'adoption du marché en France et en Europe, notamment si on compare sur la partie paiement par rapport à ce qu'on voit en Chine. On a l'impression aujourd'hui dans le monde qu'il y a un peu deux modèles. Le modèle chinois où la partie paiement carte bancaire est clairement de plus en plus disruptée par le paiement mobile. Par exemple, dans les supermarchés, il y a un an et demi, une chaîne de supermarchés nous disait que 50% des paiements se faisaient exclusivement mobile. Un an avant, ils étaient à 20%, donc aujourd'hui, j'imagine qu'ils sont autour de 70-80%. Aujourd'hui, on a l'impression que côté américain et aussi européen, on n'est pas pour l'instant du tout sur le même modèle. La carte bancaire, j'ai envie de dire, il y a encore des gens qui payent en chèque dans les supérettes. La carte bancaire est devenue très importante, mais le paiement mobile reste quand même, j'ai pas les chiffres, donc j'imagine que ça reste quand même relativement plus faible par rapport à ce qu'on voit en Chine et dans d'autres pays émergents. Donc ma question, alors il y a évidemment, j'imagine qu'il y a des raisons démographiques, questions d'usage, réglementaires, etc. Ma question c'est, chez Lydia, comment est-ce que vous voyez ça? Quel est un peu le plan? Est-ce que vous avez discuté avec Tencent pour faire croître cet usage? Parce que vous disiez que quelque part le modèle paiement peut-être wallet commence à être abouti. Pour autant, comme je dis, l'usage n'est pas encore si important. Donc, pour vous, est-ce que c'est un challenge? Comment vous voyez l'avenir à ce niveau-là? Et deuxième question.
Déjà à 6. Je vais essayer de répondre à ça là si vous voulez bien. Okay, ça fait déjà beaucoup là. Ce qui se passe dans les services financiers de paiement en Europe, aux États-Unis, en Occident, pour faire une généralité, c'est ce qui se passe dans tous les sites d'innovation de toutes les industries dans le monde entier, de toute l'histoire d'innovation. Okay. Il y a des situations, des pays, des zones où c'est à un certain niveau d'avancement, et du coup, on est assez content de ce qu'on a, et donc l'évolution d'après prend du temps à s'imposer. C'est pas pour ça qu'elle va pas s'imposer, elle va s'imposer partout. D'autres endroits où on part de plus loin, et du coup, on saute une étape. L'endroit au monde où le paiement mobile est le plus développé, c'est même pas en Chine, c'est au Kenya. Au Kenya, il y a une solution qui a été créée à la fin des années 2000 par l'opérateur télécom local qui s'appelle M-Pesa, un pays où les gens ne sont pas bancarisés du tout, donc full cash et avec des téléphones mobiles qui ne ressemblent vraiment pas à celui que vous avez dans la main ou dans la poche, mais avec des feature phones vraiment de base. Et sur les serveurs de M-Pesa, 30% du PIB kenyan. Voilà. Autant vous dire que sur les serveurs de WeChat Pay, l'IP ne transite pas 30% du PIB de la Chine, je ne parle pas de la France. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'on est, rétif à l'innovation? Non. Est-ce que ça veut dire qu'on n'ira pas à ce niveau-là de part du paiement mobile dans la part générale des paiements? Non. Est-ce que ça va prendre plus de temps? Oui. Comment on voit ça? Une énorme opportunité. Deuxième question.
Oui, vous avez parlé de la naissance, mais que se passera-t-il quand ce sera Facebook ou Amazon qui proposera vos services de paiement comme un petit truc supplémentaire à sa communauté?
Ma question préférée. Merci de l'avoir posée. Facebook a déjà proposé ce service-là en France pendant 2 ans et demi, les paiements peer-to-peer. intégrer à Facebook, intégrer à Messenger. Il ne faut pas croire qu'ils l'ont jamais fait. Il ne faut pas croire que le jour où ils vont arriver, la Terre va s'arrêter de tourner. Okay. Ils sont hyper puissants, mais comme des tas de gens sur la planète, et tout ce qu'ils font ne marche pas. Google, ils mettent à la poubelle 30 projets par an, des gros projets, ils investissent des centaines de millions. Et parce qu'ils sont intelligents, parce qu'ils sont agiles, parce qu'ils essayent, et parce qu'ils se rendent compte que des fois ça ne marche pas, on arrête, on change, on agit, on est agile. Ok, c'est ça, ces entreprises-là sont des géants agiles. C'est vrai pour Tencent, c'est vrai pour enfin, c'est vrai pour tous ces animaux-là qui sont digital. Néanmoins, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, en attendant que l'un d'eux réussisse à faire un truc qui soit, ou qui va nous prendre notre business, on arrête de travailler, donc il n'y a plus d'innovation. Plus personne ne fait rien, pose le trio. Ce mec-là embauche plus de la moitié des prix Nobel de tout. Ok, ils ont des réserves financières en centaines de milliards, des clients en milliards, donc tout le monde peut s'arrêter de travailler en attendant que Facebook, Google, Amazon, Baidu, Xiaomi fassent ça. C'est pas possible, ouais, c'est un peu dystopique, quoi, comme vision du monde. Donc évidemment, tout le monde continue à innover, faire des choses, prendre des parts de marché, faire avancer le public, et peut-être qu'un jour on sera en concurrence avec eux, peut-être qu'ils vont gagner, peut-être on va gagner, peut-être qu'on sera jamais en concurrence. Mais ça, c'est une vie normale dans tous les secteurs. Et en l'occurrence, Facebook, après 2 ans et demi, ils ont retiré leurs produits en France et en UK en disant on n'a pas trouvé l'attraction.
Bonjour. Ma question est pour Geoffroy. Donc, vous avez mentionné tout à l'heure donc, les défis autour de la multibancarisation aujourd'hui des consommateurs. Et comment vous faites aujourd'hui pour adresser ce problème dans votre process de scoring, en fait,
Avant l'algorithme qui analyse un historique de transaction bancaire, il y a un autre algorithme au-dessus qui détecte si le compte qui a été partagé par le client est bien son compte principal et qui arrive à compter combien d'autres comptes il a. Il voit les virements intercomptes, oui. Il va voir qu'il y a tous ses loyers, etc., mais il n'y a pas ses revenus, bon, bref. Donc voilà, on superpose d'autres algorithmes qui doivent identifier si ce que nous partage le client est bien son compte principal. Et si ce n'est pas le cas, on lui dit. On lui dit, apparemment, il manque une partie de ta vie financière, donc merci de nous donner le reste. Voilà, donc c'est assez simple. C'est assez simple à dire, ce n'est pas si simple à faire.
On va rester là si possible.
Merci Geoffroy, merci Cyril, merci Antoine. Merci
à Bruno et ses boys, et je dis ça de manière provocatrice, puisque en différence de ce qu'on essaie de faire d'habitude, on n'a pas eu de femmes qui contribuaient à cette table ronde, mais ce n'est pas toujours ce que ça organisait, mais on se rattrape à la suivante. 20 minutes de pause pour se rencontrer, se parler, se socialiser et on repart à